frères et sœurs, attention. Ce matin, nous allons faire chauffer nos méninges. Nous allons jouer aux théologiens. Non pas que nous ne le fassions pas habituellement, mais là particulièrement ce matin, nous allons le faire de façon peut-être un peu plus approfondie. Je relis les deux versets clés de ce passage, les versets 53 et 54. Jésus dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. » Le temps n'est pas encore venu où nous pourrons aborder la lecture de ce texte sans avoir en mémoire toutes les polémiques et toutes les divisions qu'il a suscitées. Très concrètement, ici même, pour le dernier dimanche, pour l'unité des chrétiens. Essayons donc de nous attaquer à cette question difficile et je vous propose d'abord de remonter le temps jusqu'au XVIe siècle. Quand les catholiques romains conduisaient en procession dans un ostentoire une hostie consacrée devant laquelle les fidèles exprimaient leur révérence au sacré, les huguenots n'avaient de cesse que de mettre tout en l'air en criant « Le Dieu de Pâques ! Le Dieu de Pâques !» Qu'en pensez-vous ? Avec le recul du temps, qu'on en ait pu arriver à de telles mesquineries, peut paraître bien pitoyable. Pourtant, aujourd'hui, cette question continue à se poser. Et elle reste encore une des trois grandes divisions, je dirais peut-être la plus grande division, celle qui est en tout cas le plus à vif, entre les communautés chrétiennes et en particulier entre l'Église catholique et l'Église réformée, l'Église protestante. Certains d'entre vous, et en particulier ceux qui appartiennent à ce que l'on appelle très maladroitement un couple mixte. Ce terme n'est pas très heureux, n'est-ce pas? Nous sommes tous des couples mixtes, d'une façon ou d'une autre. Eh bien, ces couples-là en éprouvent, ou bien je dirais plutôt en réprouvent de nouveau les effets. Un couple de notre communauté, mixte, m'expliquaient que le jour de leur mariage, ils avaient pu communier tous les deux ainsi que leurs familles respectives ensemble sans que cela ne pose aucun problème ni aux prêtres ni aux pasteurs qui étaient présents. Aujourd'hui, cela n'est plus du tout possible et même pour des dimanches de l'unité, cela pose des problèmes. Alors, si nous revenons à ces deux versets, personne ne peut contester que Jésus ait enseigné qu'il fallait, pour avoir la vie, manger sa chair et boire son sang. Mais la question sous-jacente est bien, quel sens devons-nous donner à ces phrases ? Jésus, dans ce texte, parle de la manne qui a nourri les Juifs dans le désert. La manne, connaissez l'histoire peut-être, a été trouvé par les Israélites qui avaient faim, qui traversaient le désert, un matin. Cela faisait comme une espèce de gelée blanche par terre, des petites graines blanches. Ils prenaient ces graines, ils les pilaient, les cuisinaient et en faisaient des pains, des gâteaux. Vous pouvez retrouver ce passage dans Exode 16. Et quand les Israélites ont vu ça, ils ont dit « Manhu, manhu ». Ce qui veut dire « mais qu'est-ce que c'est ?» D'où le nom de manne. La manne, c'est « qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, la réponse, c'est « c'est le pain que Dieu vous donne. » Eh bien, cette manne a en commun avec le Christ d'être venu du ciel, d'être un don de Dieu pour nourrir son peuple. Mais la grande différence, tandis que la manne n'avait d'autre vertu que d'alimenter les fonctions organiques, le Christ permet d'accéder à la vie éternelle. Il est très intéressant de voir que dans l'évangile de Jean, il ne donne aucune indication sur l'aliment qui pourrait être le support de l'absorption de sa chair. Autrement dit, dans quoi va-t-on manger la chair du Christ ? Nous lisons « Le pain que je donnerai, c'est mon corps ». Mais dans quoi ? Alors, comme il fallait bien trouver un support pour notre vie d'Église, on a pensé qu'en disant ça, le Christ voulait le signifier par la distribution des pains, la multiplication des pains racontée au tout début du chapitre 6. Et souvenez-vous, cette surabondance de pain avait laissé des restes. Souvenez-vous aussi, Jésus a demandé de ramasser les restes afin que rien ne se perde. On peut penser que de là, sans doute, vient l'idée pour nos frères et sœurs catholiques qu'il ne convenait pas de se débarrasser de ce qu'il restait dans les plats après la célébration. La manne, quand elle n'était pas consommée, en revanche, était destinée à pourrir le jour même. Impossible de faire des réserves de manne. La manne signifiait qu'il fallait attendre chaque jour la nourriture de Dieu, mais la recevoir aussi petit à petit, jour après jour, dans une confiance totale. La manne était le contraire de l'épargne. Un premier support, donc ce pain multiplié, qui avait vocation d'être ramassé et gardé, et un second, celui de la manne, qui lui avait vocation à disparaître. Et voici que dans cet évangile de Jean, les deux sont donnés par le Christ comme symbole, comme signifiant de son propre corps. Première question donc, dans quoi est présent le corps du Christ ? Nous venons d'en parler. La deuxième question, comment est présent le corps du Christ ? De quelle manière est présent ce corps ? Eh bien, notre texte de Jean, pas plus que les institutions de la scène ailleurs dans la Bible. Alors d'ailleurs, où trouve-t-on les autres institutions de la scène dans la Bible ? Est-ce que vous le savez ? Il y a d'autres passages dans la Bible où effectivement le Christ institue l'Eucharistie ou la scène. Est-ce que vous savez à quel endroit ? Donc là on est dans Jean, est-ce que vous savez où on les trouve encore ? Alors dans les autres évangiles, mais il y a aussi dans une épître, l'épître de Paul aux Corinthiens, où Paul rappelle cette institution. Eh bien, si on regarde dans toutes ces institutions, on ne peut pas trouver de réponse à cette seconde question. Comment est présent le corps du Christ ? Dimanche dernier, souvenez-vous, j'ai évoqué les disputes entre les deux réformateurs protestants, Zwingli et Calvin, qui n'étaient pas d'accord sur encore cette interprétation. Mais ils étaient d'accord sur un point, sur justement le comment de cette présence. Tous les deux refusaient la représentation réelle. Alors réelle, ça vient de res, qui en latin veut dire la chose et qui indique une présence matérielle. Alors comment argumentait-il ? Vous savez bien qu'à partir d'un même texte, on peut avoir des arguments différents et des interprétations différentes. Donc, dans un même évangile, dans un même verset, on peut avoir des points de vue différents. Eh bien, à partir de l'histoire de l'ascension. Alors, l'ascension, vous avez un petit peu en tête ce que c'est. Quand le Christ, après être ressuscité, est revenu parmi ses amis, remonte au ciel auprès du Père. Alors, pour les catholiques d'un côté, cette ascension signifie que la montée au ciel de Jésus-Christ lui donne la capacité d'être partout, puisqu'il était là, il est reparti, il est revenu, donc il peut être partout à la fois. Et pour les autres, les protestants, cette montée au ciel signifie qu'il ne peut plus être corporellement sur terre jusqu'à son retour. Il devient donc évident pour les réformateurs que la présence du Christ dans l'Eucharistie ne peut être que spirituelle. Attention, nous ne disons pas pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une vraie présence. C'est d'ailleurs précisément pour lutter contre cela que Calvin parle non plus de présence réelle, mais de présence véritable. Est-ce que vous me suivez ? Ça va ? Donc, présence véritable, c'est-à-dire une vraie présence, mais pas une présence réelle de la chose, du corps, mais une présence en esprit qui n'en est pas pour autant dénuée de sens et de force. On revient donc à notre question que nous n'avons pas toujours résolue entièrement. Comment maintenant interpréter ces paroles de Jésus, puisqu'il dit quand même que celui qui mange ce pain ne meurt pas. Alors, si on en reste à cette parole première, on peut en déduire rapidement que le cimetière nous est épargné. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Nous devons donc concevoir que quand Jésus parle du fait que l'on ne mourra pas, il renvoie à une autre mort que la mort naturelle. Du coup, on peut en déduire qu'il y a le même écart entre ces deux types de mort qu'il y a entre la présence réelle et la présence véritable. Nous, réformés, pensons que nous ne pouvons pas échapper à une interprétation symbolique des textes bibliques, des paroles du Christ. Je disais tout à l'heure que dans les autres évangiles, il y avait aussi une institution de la scène. Et il est écrit que Jésus partage le pain et le vin en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » Dans l'évangile de Jean, nous avons quelque chose de complémentaire à la scène. Il est dit que nous recevons quelque chose de la part de Jésus. Jésus nous est présenté comme lui-même le pain venu du ciel. Et ce pain et ce vin sont des supports symboliques d'une vérité profonde, à savoir que c'est par l'humanité de Jésus que nous devons à notre tour nourrir l'humanité. Et que c'est de la vie de Jésus que nous devons nourrir notre vie et la vie des autres. Ce sont des supports visuels qui nous rappelle que nous sommes spirituellement nourris par ce pain qui descend du ciel et qui est en Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ lui-même. Connaissez-vous la définition du sacrement ? Alors déjà, pour les réformés, combien y a-t-il de sacrements ? On l'apprend au catéchisme, ça. J'entends deux, c'est très bien, donc vous le savez. Nous avons deux sacrements qui sont le baptême et la Sainte Cène. La définition des sacrements donnée par les réformateurs est la suivante. Les sacrements sont des signes visibles d'une grâce invisible. C'est donc tout le développement que nous venons de partager ensemble. Et il est bien enfin de dire, et peut-être même ce que je vais dire maintenant, et peut-être au plus haut point dans tout ce que nous venons de partager. Il n'aurait été jamais possible à Jésus, le Juif, de demander à ce que l'on boive réellement son sang. Lorsque l'on connaît un petit peu la culture juive et l'interdiction qui est faite dans les textes bibliques. Pour un juif, la vie circule dans le sang Le sang est symbole de vie et cela implique toute une conduite pour le quotidien. Vous connaissez notamment le fait de manger kasher. Pourtant, les interlocuteurs que Jésus a en face de lui ne comprennent pas ce sens symbolique. Il est dit au début du passage, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais on dit ça, mais je connais son père, je connais sa mère, ce n'est pas possible. Ses interlocuteurs veulent le faire roi pour qu'il continue à les nourrir. Et ils finissent par partir scandalisés à la fin du passage, quand Jésus leur demande de boire son sang. Je disais en commençant que nous ne pouvions pas lire ces textes sans penser tout de suite à toutes les polémiques chrétiennes et à tous les blocages de l'œcuménisme. Mais après avoir médité et passé du temps sur ces versets, peut-être faut-il nous faire une raison et nous demander si depuis 5 siècles la question n'a pas été résolue, il y a vraiment très peu de chances qu'elle le soit dans le 6e. Nos pauvres querelles sont peut-être bien uniquement stériles. Et devrions-nous plutôt reconnaître dans l'humilité que nous n'arrivons pas à nous retrouver sur cette question, que nous sommes en échec ici et que la vérité et l'unité sont dans les mains de Dieu uniquement. En attendant donc de connaître pleinement, nos mains à nous ont tant d'œuvres bonnes à accomplir pour faire avancer le royaume. Et nos cœurs ont tant à croire en Jésus-Christ pour obéir à la volonté de Dieu le Père. Et voilà la bonne nouvelle, frères et sœurs. Cela, nous pouvons le faire ensemble, entre chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants, dans la plus fraternelle humilité. Seigneur notre Père, sois notre secours.